Actuellement, je suis en compagnie de la professeure Mélissa Généreux ce matin. Bonjour Madame Généreux.
Bon matin.
Vous êtes professeure à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'UDS et vous êtes également médecin conseil à la direction santé publique du CHUS de l'Estrie, CHUS. Donc ce matin, on va parler un petit peu santé mentale ensemble. On dépeint un portrait assez sombre de la santé mentale des jeunes, surtout des filles actuellement, notamment lors d'une enquête menée sur les jeunes de 12 à 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi c'est le cas?
Oh, pourquoi c'est le cas des données si élevées? Ben, en fait, c'est ça ce qu'on a mesuré, c'est des symptômes, beaucoup d'anxiété et de dépression, mais je tiens quand même à faire la nuance que c'est une enquête, un sondage en ligne, donc les gens nous rapportent comment ils se sentent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tous reçu un diagnostic, fort heureusement, mais il n'en demeure pas moins qu'à partir de l'âge de 16-17 ans, on approche ou même on dépasse des 50% des jeunes qui rapportent un cumul de symptômes d'anxiété, dépression. Donc, c'est dans le fond, ce que ça dit, c'est que la quantité de jeunes qui ont une certaine souffrance psychologique là, qui est quand même assez récurrente, presque à tous les jours, et qui se manifeste par toutes sortes de symptômes de mal-être, c'est très présent là, dans notre réalité. Pourquoi? C'est vraiment une question à 100 piastres dans le sens que l'année passée, on avait observé des résultats similaires, puis on le mettait beaucoup sur le compte de la pandémie. On se disait, tu sais, en janvier dernier, c'était encore le confinement, le couvre-feu, les mesures restrictives. Mais là, un an après la fin de ces mesures-là, pourquoi les jeunes se sentent toujours... Ou sont aussi nombreux à se sentir mal. On pense qu'il y a eu un déplacement, un peu un déséquilibre du temps qu'on a dans nos vies ou notre façon d'entrer en contact avec les gens ou notre recherche d'équilibre peut-être entre le loisir, les relations sociales, la charge de travail aux études ou à notre travail, à notre emploi. Donc, on pense là, qu'il y a quelque chose en contexte post-pandémique qui vient un peu expliquer cette souffrance-là.
Donc, en fait, les jeunes auraient eu un peu plus de mal, disons, à revenir à la normale, en fait, après la pandémie. Peut-être qu'ils sont mis dans une sorte de bulle, disons, où il n'y avait aucune interaction sociale, en fait, où on était chez nous, on faisait pas grand-chose, on pouvait pas sortir, on voyait pas de gens. Et en fait, quelque part, ça a eu un effet sur le long terme, donc.
Oui, bien, c'est sûr que ça demeure des hypothèses, mais nous, dans cette même enquête-là, on a demandé aux jeunes... quelle est la quantité de travail pour un emploi rémunéré là, que tu fais par semaine. Puis on s'est rendu compte que c'est déjà beaucoup plus que l'an passé. Mm-hmm. Donc, il semble avoir de plus en plus de jeunes qui travaillent et qui travaillent souvent plus que 15 heures semaine. Donc, veux pas, oui, ça peut être stimulant, engageant, puis c'est le fun d'avoir des sous de côté ou préparer son avenir ou des choses comme ça, ou même tout simplement pouvoir se payer des trucs dont on a envie. Mais d'un autre côté, d'aller mettre plus que 15 heures semaine en plus des études, les jeunes eux-mêmes nous disent que ça a comme impact, que ça diminue leur temps pour le loisir, la vie sociale. Puis il y a autre chose aussi qu'on a mesuré, c'est le temps passé devant l'écran, que ce, en dehors des heures de cours, que ce soit pour les réseaux sociaux, le gaming en ligne ou tout ce qui est Netflix, téléséries, etc. Et ça aussi, là, c'est énorme. Juste pour les réseaux sociaux, on a à peu près un jeune sur deux, et c'est autant vrai au cégep université qu'au secondaire, donc un jeune sur deux qui nous dit passer plusieurs heures par jour devant les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, tout ce temps-là fait qu'on n'est pas, si on veut, en train de juste vivre notre vie, avoir du fun, s'impliquer dans du sport avec des amis, etc.
Donc, en soi, les réseaux sociaux, les écrans, ça aurait eu un impact négatif, disons, sur la santé mentale des jeunes en ce moment?
Mais ça serait vraiment l'impression que j'ai, l'hypothèse, parce que veut pas, le lien avec la pandémie, c'est que pendant deux ans, un peu comme vous disiez, c'est à peu près juste ça qui restait, gros, outre les études, l'écran, veut pas, tout le monde a été amené à passer plus de temps, même pour socialiser via les écrans. Ça crée une forme de dépendance. Même dans notre enquête, on demande à quel point tu te sens dépendant. Puis c'est impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se disent moyennement ou très dépendants des écrans. Même moi-même, je suis pas dans la tranche d'âge du tout, puis on dirait que c'est plus pareil la relation avec le téléphone intelligent. Vraiment, on dirait que si on le trouve pas dans la maison, il nous manque quelque chose. Donc, cette dépendance-là à l'écran, cette omniprésence-là, on pense que c'est pas juste l'effet de la pandémie, parce qu'évidemment, avant la pandémie, il y avait déjà quelque chose qui s'installait, mais j'ai l'impression que la pandémie a agi un peu comme un catalyseur. Donc, ça a accéléré un phénomène social qui était déjà en train de s'implanter tranquillement.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Honnêtement, moi aussi, après la pandémie, je dois l'avouer que même si j'ai mon travail, même si j'ai les cours, tout ça, j'ai besoin un petit peu de mon écran. Je suis obligée de le dire comme ça. Je suis un peu dépendante de mon ordinateur et un peu de mes jeux vidéo. Donc oui, effectivement, il y a eu fortement un impact. Est-ce qu'on peut dire que la santé mentale est plus en fait touchée lorsque les jeunes sont au cégep, secondaire et université que lorsqu'on est plus âgé?
Bien, nous, c'est sûr que dans cette enquête-là, on a regardé les 12-25 ans. Ceci étant dit, pendant la pandémie, j'ai aussi fait d'autres enquêtes qui étaient chez les 18 ans ou plus, donc jusqu'à 100 ans. Mm-hmm. Puis vraiment, l'âge des 12-24 ans, c'est là où on voyait clairement plus d'anxiété, plus de dépression, toujours au niveau des symptômes rapportés. Mm-hmm. C'est d'ailleurs ces premières études-là qui m'avaient fait réaliser que ce serait important de regarder en bas de l'âge de 18 ans, c'est pour voir est-ce que c'est vraiment la tranche des 18-24 ou c'est la même chose pour les 12-17. Finalement, ben c'est un peu vrai les deux, dans le sens que à l'âge de 12 ans, les jeunes semblent encore, entre guillemets, relativement préservés. Puis, oups, au fur et à mesure qu'ils progressent au secondaire, on voit un peu plus de jeunes qui développent des symptômes d'anxiété, dépression. Et on voit que rendu à la transition, je dirais, de secondaire 5 au cégep, là, il y a quelque chose qui se passe en tout cas en termes de nombre de jeunes qui vont nous rapporter de tels symptômes.
Donc, on a parlé un peu des écrans, on a parlé notamment du travail, mais justement, on parlait un peu de l'école, là. Est-ce que vous pensez que le système scolaire a un effet sur cela? Est-ce que les jeunes, en général, sont trop stressés par l'école? Est-ce que c'est beaucoup de pression sur leurs épaules?
Ben oui, bien sûr que, ben, premièrement aussi, il y a le stress qui peut être posé par l'école, mais il y a aussi les habiletés qu'on a pour faire face à ce stress-là. Donc, je dirais que de vivre du stress, c'est un peu inévitable. Tu sais, toute notre vie, on va en vivre. Puis, je me demande vraiment, est-ce qu'on doit juste viser à réduire l'exposition au stress ou apprendre à développer des outils pour mieux y faire face? J'ai l'impression qu'on outille mieux ou c'est de manière plus durable l'effet si on essaie de se donner plus d'outils. Puis ça, encore une fois, pendant la pandémie, c'est quand même long, une période de 2 ans où développer des outils pour faire face au stress, c'est pas tout à fait les mêmes stratégies. Hein? On n'avait pas les mêmes stratégies à notre portée. Donc, je pense que c'est un peu de réapprendre ça. Puis oui, le milieu scolaire à ce moment-là, ou d'enseignement, a vraiment un rôle à jouer pour reconnaître que c'est un milieu de vie. C'est pour les étudiants, les étudiantes, on passe beaucoup de temps là. Puis, à quelque part, si on a de la difficulté à, entre autres, à trouver du temps pour socialiser, puis reconnecter, créer des liens qui sont significatifs pour nous, bien, ce milieu-là peut être un milieu qui, au-delà de sa visée un peu plus pédagogique, c'est de faire des étudiantes performantes qui vont avoir une belle carrière, bien, on peut aussi recréer des opportunités, des événements, juste pour socialiser, avoir du fun, reconnecter avec des gens, avec peut-être aussi même des adultes, des mentors qui vont nous inspirer, à qui on peut peut-être raconter nos angoisses, puis à avoir certains conseils ou soutien pour nos choix de carrière ou nos choix futurs. Donc, c'est un petit peu tout ça que les jeunes nous disent dans l'enquête, qu'ils veulent retrouver un milieu qui est bienveillant, un milieu qui agit plus que comme un milieu d'éducation.
Oui, vraiment. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est véritablement aider les jeunes à se sentir mieux, en fait, à travers des activités. Et puis, comme vous le dites, à travers vraiment une reconnexion au niveau des interactions sociales. Donc, ça serait ça, en fait, à mettre en place plutôt que, comme vous le dites, retirer le stress, tout ça. Véritablement, juste aider les jeunes à travers, que ce soit des programmes, activités, etc., à se sentir mieux, en fait.
Oui, tout à fait, de peut-être mieux rééquilibrer. On a même posé des questions, je pense que c'était 17 pratiques différentes qui nous apparaissaient comme des pratiques qui pourraient favoriser le bien-être pour les jeunes. On s'est dit, ben, pouvez-vous un peu nous aider à identifier celles que vous privilégieriez? Puis, encore une fois, on avait des pratiques un peu classiques du genre avoir accès à plus de psychologues, plus de soutien individuel. Et oui, quand même, une certaine partie des jeunes l'ont nommé, là, que ça peut les aider. Mais ce qui a été le plus populaire, c'est justement la création de liens significatifs à mon école, des activités de plein air, des activités sociales, culturelles ou des activités sportives. Donc, encore une fois, toutes des occasions d'aller dans son milieu de vie pour faire des choses complémentaires à apprendre. Puis probablement que la prédisposition à bien apprendre est encore plus grande quand on a la chance aussi de faire d'autres activités puis recréer des liens. Donc, je pense qu'il faut juste trouver un équilibre finalement entre les deux puis se dire que le milieu d'enseignement, c'est un environnement dans lequel on gravite. Puis toute la façon dont on aménage même les pièces, ça a été nommé ça, d'avoir des coins détente, tu sais, des chill rooms un peu, des endroits où on peut juste aller passer du bon temps, où c'est beau, c'est esthétique, de la belle musique, ou etc. Donc, des endroits où, oui, on peut peut-être aller étudier, mais on peut juste aller jaser, prendre un café avec quelqu'un, se détendre. Donc, toutes des solutions, je pense, qui sont à portée de main. Puis probablement, on va se le dire, même moins dispendieuse que d'offrir des services psychologiques à tout le monde. Donc, je pense que tout est dans l'équilibre entre les mesures.
Oui, en fait, il n'y a rien de mieux que de passer du temps avec des personnes, rencontrer de nouvelles personnes, faire des activités extérieures, discuter, boire un café, comme vous dites. Donc, non, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça pour, disons, balancer la santé mentale des jeunes. Écoutez, merci beaucoup, Madame Généreux. C'était très intéressant à entendre tout ça parce que il faut en parler, en fait, de ce genre de choses. C'est très important, surtout comme vous le dites, c'est après pandémie, il y a toujours des effets sur la santé mentale des jeunes. Donc non, il faut vraiment en discuter. Puis pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez en apprendre un peu plus, il suffit d'aller sur le site de l'Université de Sherbrooke. Dans la rubrique nouvelles, vous allez avoir un article justement qui a été fait sur cette étude-là. Et vous pourrez réécouter donc cette entrevue sur le site de cefac.ca. Donc merci Madame Généreux d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous parler ce matin.
Même aussi, ça m'a fait plaisir et bonne semaine à tout le monde.
Merci beaucoup, bonne semaine à vous. Nous, on va